Se celebra mañana, día 20 de marzo, el Día de la Francofonía, una jornada en la que se pone de manifiesto la importancia de la lengua francesa en todo el mundo. Desde la UNED queremos sumarnos a esta celebración y esta es nuestra particular forma de aportar un granito de arena. Aula de Filología de hoy lunes está dedicada a francés. Conmigo en el estudio está Brigitte Lewen. Brigitte, bonjour, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días.
¿Ça va?
Sí.
Brigitte Lewen, la conocerán nuestros oyentes, nuestros estudiantes, es profesora titular en el Departamento de Filología Francesa de la Facultad de Filología de la UNED y ella tiene una iniciativa que ya lleva haciendo en distintos cursos que es traer a nuestros estudios a escritores interesantes siempre que tienen obras en candelero, recientes, generalmente escritas en francés, claro está, algunas traducidas, otras no, pero que siempre dejan un pozo interesante en este estudio, la verdad. El invitado de hoy es Eddie Cadou. Bonjour.
Buenos días.
Él es profesor catedrático, se diría en español, de la Universidad de Lyon. Es nacido en Túnez en 1945 y es autor de una novela que acaba de salir publicada en español que lleva por título Baltenberg. Está publicada en Edasa, el traductor es Gregorio Cantera. Acaba de salir, como digo, es un libro muy recomendable. Por este libro ha recibido el premio Camille Gaumont en 2005. Y decía que él es conocido en el mundo literario por su poemario y sus ensayos, es traductor de inglés, de alemán y de árabe, y es profesor en la Universidad de Lyon y en el Centro de Formación de Periodistas de París, de Journaliste, ¿no? Lo diré por la parte que me toca a mí, porque estamos en un programa de periodismo educativo, pero periodismo al fin y al cabo. Pues Brigitte, yo creo que te cedo a ti la palabra porque tú eres la experta, quien se ha preparado este tema, quien ha leído la novela y quien nos puede sacar cosas interesantes del quehacer literario de Eddie Cadou.
Exactement. Mais écoutez, d'abord, je voulais dire que ce livre m'a beaucoup intéressé, c'est la raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui, qu'il a été bien traduit, que je le recommande à tous nos élèves et à toutes les personnes qui nous écoutent. Et pour donner un peu une orientation aux gens qui vont lire ce livre, j'aimerais poser un certain nombre de questions à son auteur, qui est ici présent. Et je crois que la première question et la première curiosité que j'ai, moi, que j'ai eue quand j'ai lu ce livre, que j'ai d'abord lu en espagnol d'ailleurs, c'était un peu de définir le type de livre. C'est un livre très riche et très plein de possibilités, de thèmes très, très variés. Et je me demandais si ce que vous feriez, s'il fallait choisir la catégorie, le lieu où placer ce livre dans une histoire de la littérature contemporaine, où vous placeriez votre livre en tant que professeur et théoricien.
Ce serait un peu difficile parce que, au départ, j'ai voulu faire quelque chose d'un peu contradictoire, qui tient compte en même temps de la diversité des romans que j'aime lire. C'est-à-dire que j'aime aussi bien lire des romans d'aventure que La recherche du temps perdu. Et ce que j'ai voulu faire, au fond, c'était heurter l'un contre l'autre le roman d'aventure et le roman monde. En quelque sorte, heurter l'un contre l'autre Les Trois Mousquetaires et La Montagne Magique, de Thomas Mann, par exemple. Si bien que ce roman bouscule un tout petit peu les catégories traditionnelles des classements des bibliothèques. Et si mon roman contribuait à bouleverser un peu ce classement traditionnel, je ne serais pas mécontent. Je ne sais pas si on le mettrait dans les romans d'espionnage ou bien si on le mettrait dans les romans de formation, ce que les Allemands appellent le Bildungsroman. J'aimerais surtout qu'on me mette aux côtés des gens que j'aime, c'est-à-dire le John le Carré de L'espion qui venait du froid, ou le Hermann Broch de La mort de Virgile, ou le Vasquez Montalban de El Pianista. Voilà, si je pouvais être rangé parmi les gens que j'aime, ce serait une satisfaction. Mais je ne suis pas très optimiste, je crois que les classements ont aussi leurs avantages et leurs exigences, et ça peut prendre du temps. Cela dit, en même temps, la question n'est peut-être pas encore à l'ordre du jour. Le roman est tout neuf. Je me considère comme au début d'une aventure de romancier. Donc la question de la bibliothèque ne se pose peut-être pas encore directement pour moi.
Surtout que vous avez quand même très fortement l'influence de la poésie, d'après ce que j'ai vu dans le texte même, dans l'écriture même.
Oui, je viens de la poésie. C'est-à-dire que les éditions Gallimard à Paris, pendant 15 ans, m'ont publié des recueils de poèmes, et à chaque fois en acceptant de perdre de l'argent. Parce que en publiant de la poésie en France aujourd'hui, on perd de l'argent. Mais Gallimard y tenait parce que ça correspond à l'une des fonctions de la maison, que d'aider la littérature à s'inventer. Et ça passe en grande partie par la poésie. De la poésie, je suis venu avec quelques gestes fondamentaux du poète, c'est-à-dire une attention extrême à des micro-événements dans le monde réel, une prise de notes très attentive, le souci de ne pas porter de jugement, et puis ensuite on rentre chez soi et avec les notes qu'on a prises, on essaye de mettre en rythme de façon à obtenir une forme qui est sa raison d'être particulière et qu'on appelle un poème. Et au besoin, en coupant, même dans ce qu'on aime, mais pour que justement cette forme poétique puisse s'instaurer. Et je n'ai pas eu l'impression, alors je sais que c'est un peu amusant de dire ça quand on passe de poème de 15 lignes à un roman qui en espagnol fait quasiment 900 pages, je crois que c'est quand même cette idée. Je n'ai pas eu l'impression de modifier mes gestes fondamentaux quand je suis passé du poème au roman.
Mais effectivement, quand on est lecteur, et je me suis placée dans mon rôle de lecteur, et d'ailleurs je ne connaissais pas votre œuvre en tant que poète, au moment où j'ai lu ce texte, j'étais très frappée par ça et j'ai effectivement imaginé ça. C'est-à-dire que ça se sent. Ça se sent dès la première page. D'ailleurs, la façon dont vous écrivez est extrêmement... la formation est une formation de poète. Effectivement, ça se sent.
Mais on
ça
le voit à la première phrase, par exemple.
Exactement.
Quand le brouillon de la première phrase, c'était en français « Le jet, l'oiseau, donc le jet a cessé de crier et Hans a une pointe de sabre sur le ventre. » Et un ami écrivain avec lequel je discute souvent de ce que j'écris, avec lequel nous confrontons nos propres écritures en nous lisant en haute voix, me fait remarquer que « a cessé de crier » et « Hans a une pointe de sabre », ça fait ce qu'on appelle en français un hiatus, « crier et »,
exactement,
deux fois « et ».
Exactement.
Et j'ai été sensible par exemple à cette remarque, et ça a donné la correction, « le jet a cessé de crier », j'ai mis un point, et j'ai recommencé une autre phrase, « Hans a une pointe de sabre sur le ventre ». C'est un micro-événement d'écriture, mais c'est en même temps un scrupule de poète qui n'a jamais disparu.
Mais c'est un texte, effectivement, c'est une première page très révélatrice, très très révélatrice de votre façon d'écrire. Et j'étais très frappée par ça. D'ailleurs, ça continue quand vous dites « Dans ce bois, le front est à 50 km au sud. Les lapins. » C'est évident que c'est un texte très particulier, un texte en prose très particulier.
Là, en même temps, ça vient de l'habitude de l'ellipse dans le poème. J'aurais pu effectivement écrire « Comment se fait-il qu'il y ait là des soldats français alors que le front est à 50 km ?» Hans réfléchit, puis se remémore ce qu'il était en train de regarder au moment où les soldats français l'ont surpris. Il regardait en effet à ce moment-là une troupe de lapins en train de s'ébattre dans la prairie. Et effectivement, au récit, ça donne dans la... Et en même temps, c'est peut-être plus réaliste et conforme au flux intérieur de conscience d'un personnage que ces à-coups brutaux qui fait que deux idées se succèdent, le front est à 50 km, et puis juste après, les lapins. C'est-à-dire qu'au fond, l'acte poétique nous ramène peut-être à l'exactitude de la vie intérieure.
À l'acte de conscience,
oui, exactement, du flux de conscience.
Du flux de conscience,
oui,
conscience.
C'est ça. Et pour trouver le bon simulacre du discours intérieur, il faut faire un travail de poète. Parce que si vous ne faites pas ce travail de poète, vous allez obtenir quelque chose qui ne sera pas du flux de conscience.
Oui, qui répondra moins à la réalité intérieure, effectivement.
Les recuerdo que estamos en Aula de Filología, que está dedicada a francés. Se trata de una entrevista de la profesora de la UNED, Brigitte Lewen, al escritor francés Eddy Cadoux. Eddy Cadoux, escritor nacido en Túnez en 1945, es autor de una novela reciente de gran éxito titulada Waltenberg, donde se narran los encuentros y desencuentros de un novelista alemán, una cantante americana y un periodista francés, cuyas voces alternan con las de Stalin, Malraux y otros personajes históricos y ficticios que suponen una reflexión sobre la historia. La novela de Eddy Cadoux, Waltenberg, se desarrolla en el periodo histórico que va desde la Primera Guerra Mundial hasta la caída del Muro de Berlín. El libro puede interesar tanto a aquellos apasionados de la literatura como a los seguidores de los relatos de aventuras o de thrillers, ya que en esta novela encontramos unos personajes creíbles donde los escenarios son reproducidos con fuerza y la trama de la novela es envolvente y con muchos alicientes para el lector. Continuamos en Aula de Filología con la conversación entre la profesora Brigitte Lewen y el escritor Eddy Cadoux. La conversación es en francés, pero al final la profesora hace un resumen en español de esta charla.
Eh bien, je crois que effectivement c'est très fort chez vous cette c'est une un des traits de votre écriture littéraire. De toute évidence, non? C'est une des caractéristiques de votre façon d'écrire.
C'est-à-dire que je voulais faire un roman d'aventure, parce que j'adore Les Trois Mousquetaires, j'adore L'Espion qui venait du froid, ou d'ailleurs les romans de John Conrad, ou les romans de Rudyard Kipling. Kim est au fond le premier roman d'espionnage. Mais je ne voulais pas non plus, pour utiliser une expression courante si j'ose dire, je ne voulais pas l'écrire à l'eau du robinet. Le défaut de certains romans d'aventure, pas de ceux que j'ai cités justement, mais de ce qui se présente toutes les semaines comme roman d'aventure, ou ce qui se lit, c'est que c'est souvent écrit à l'eau plate, à l'eau du robinet. C'est une écriture qui est là pour correspondre aux attentes les plus clichés des lecteurs. Et je voulais contrebalancer le côté feuilletonesque du roman d'aventure, qui est nécessaire, ce côté de feuilleton qui donne le rythme du roman d'aventure, mais je voulais le contrebalancer par les exigences fondamentale du roman littéraire, du roman poème.
C'est là où vous rejoignez un peu la seconde question que je voulais vous poser, justement. Du point de vue du lecteur, c'est un livre qu'on peut lire de plusieurs façons. On peut le lire comme un lecteur qui s'intéresse au roman d'aventure, qui a besoin de se distraire et de rire et d'oublier ses problèmes quotidiens. Je pense que c'est un livre qui se prête à ça, absolument. Et puis d'autre part, c'est un livre qu'on peut lire sans préjugés, au sens littéral du terme. Et c'est aussi un livre qu'on peut lire d'une façon très sophistiquée, en tenant beaucoup compte de l'intertexte, en tenant beaucoup compte de toutes les références littéraires auxquelles vous faites allusion, et même à celles auxquelles vous ne faites pas allusion. Et je pense que vous en êtes conscient. Vous avez choisi d'écrire de cette façon, non?
Oui, oui. Absolument. Les premières réactions de la presse française dans le journal professionnel de la librairie, par exemple, française, ou un grand journal, un grand magazine féminin comme Marie-Claire, ont eu la même réaction. Et ça m'a fait plaisir parce que ça correspondait à ce que je pensais avoir essayé de faire. La journaliste de Marie-Claire a dit, c'est un roman qui est écrit de façon dense, mais on peut entrer dans ce roman comme on entre dans une gare. Et le journaliste du mensuel de l'hebdomadaire professionnel de la librairie a dit, c'est un roman qui est écrit comme un roman d'aventure, mais qui est composé comme une musique de chambre. Et là aussi, il y avait cette tension, effectivement, entre les deux. Et le roman rend, effectivement, à un moment donné, très précisément, hommage à la musique, à la composition de la musique, et a voulu traiter la musique dans le roman avec la dignité que mérite le langage musical. Et pour l'intertexte, évidemment, dès le départ, il y a d'autres textes qui sont présents, ne serait-ce que presque dans le titre, puisque dans Waltenberg, on entend le Zauberberg de Thomas Mann, c'est-à-dire la montagne magique. Et mon idée, en écrivant le roman, c'était de prendre un peu, pour les aventures du héros de la montagne magique, la suite. Puisqu'à la fin de la montagne magique, Thomas Mann dit à son héros, Lebewohl, Hans Castorp, adieu, Hans Castorp, deine Geschichte ist aus, ton histoire est finie. Et il l'envoie dans la tourmente de la guerre de 14 en lui disant, je ne sais pas si tu vas survivre. Et mon idée, ça a été de faire en sorte que l'histoire de Hans Castorp ne soit pas finie, qu'il sorte vivant, qu'il y ait un Hans, plus Castorp, mais Kapler, qui sorte vivant de la guerre de 14-18, et essayer de voir ce que devient cet homme à l'issue du suicide collectif de l'Europe qu'a été la Première Guerre mondiale. Donc, dès le départ, l'intertexte est présent. L'autre intertexte, évidemment, c'est celui de John le Carré, des histoires d'espionnage et de taupe. Mm-hmm. J'ai voulu, effectivement, écrire une taupe à la française. Parce que on écrit toujours, au départ, avec les romans. Un roman, on l'écrit toujours avec les romans qu'on a lus et qu'on a aimés. Et après, tout le travail du romancier, et moi ça m'a pris 7 ans, consiste à conquérir une certaine forme de singularité par rapport aux gens à partir desquels on a commencé à écrire. C'est pour ça que ça m'a pris en même temps du temps, cet effort de libération. Mais en permanence, il y a la trace à la fois reconnaissante et amusée vis-à-vis des œuvres des autres.
Oui, reconnaissante et amusée, effectivement. J'ai l'impression que vous avez dû vous divertir beaucoup, de toute façon, non? Parce que le lecteur, lui, est très à l'aise au milieu de tout ça.
Mais c'est-à-dire que j'aime bien m'amuser quand je lis des romans. Qu'il s'agisse des romans de Gogol, par exemple, Les âmes mortes, en dessous, le sous-titre des âmes mortes de Gogol, c'est poème. Mm-hmm. Et en même temps, c'est un des romans qui déclenche en moi des fous rires permanents. Je peux relire la même scène à une semaine de distance, ça continue à... Même chose pour certains romans de Faulkner, mm-hmm. c'est la même chose. Il y a un art du grand comique et du grotesque que le roman se doit de continuer à pratiquer, sauf à devenir un récit gris et bêtement expérimental.
Et vous le commentez, vous le dites textuellement, vous l'affirmez dans votre livre, parce que dans ce livre, il y a aussi un peu cette idée que vous avez de la littérature. Vous exprimez à travers vos personnages un peu votre vision et vos choix littéraires, dans une certaine mesure. Non?
Oui, disons qu'il y a plus qu'un exposé d'une vision, il y a un débat avec des visions contradictoires.
Exactement.
Effectivement. Et ça, j'ai tenu aussi à l'installer à l'intérieur du roman. Il y a un gros danger là. C'est-à-dire que quand vous installez un débat sur le roman à l'intérieur du roman, le danger, c'est que les idées prennent le pas sur le récit.
Non, mais c'est pas le cas, parce que c'est suffisamment dispersé pour qu'on n'en ait pas cette sensation.
Et l'idée, c'était de continuer à rendre romanesque le débat sur le roman. C'est-à-dire que le débat sur le roman soit en même temps un véritable enjeu du romanesque à l'intérieur du roman. C'est un peu ce que fait Gide, effectivement, dans Les Faux-Monnayeurs, par
Exactement.
Exemple.
Exactement. Bien. Un autre aspect aussi qui m'a extrêmement, étant donné que nous avons peu de temps, je veux profiter quand même de ce peu de temps qui nous reste, et c'est l'aspect, vous en avez parlé hier dans une autre entrevue, vous disiez qu'il ne fallait pas éditorialiser, qu'il ne fallait pas entrer dans le débat idéologique et politique de façon directe. Mais vous étiez d'accord, et vous reconnaissiez qu'inévitablement et indirectement, Et c'est évident, quand on touche le thème de l'histoire, et surtout de l'histoire contemporaine, et d'une histoire contemporaine tellement controversée et tellement difficile à assumer pour les uns et pour les autres, il est évident qu'inévitablement, il y a un problème qui se pose, qui est un problème finalement idéologique. Et essentiellement, le problème, moi je crois qu'un des problèmes intéressants actuellement, c'est le problème de la morale. De la morale et du rôle véritablement de la littérature. Est-ce que la littérature est là pour transmettre quand même une certaine éthique et une certaine vision idéologique au sens vaste du terme?
Je crois que je vais être très clair là. La littérature n'a pas à transmettre une éthique, mais l'écrivain doit avoir, et la seule éthique que puisse avoir l'écrivain, c'est une éthique de l'écriture. Et cette éthique de l'écriture, elle est d'autant plus nécessaire que nous nous trouvons de l'autre côté de ce qui a pu y avoir de pire en histoire. Oui. L'extermination des Juifs, à Auschwitz, comment, c'est la célèbre question d'Adorno, comment peut-on écrire de la poésie avec... En fait, c'est une question qui est même plus générale que ça, comment peut-on écrire après Auschwitz? Et je crois qu'il y a des écrivains qui ont répondu à leur façon.
Anthelme.
Voilà, alors je pense à Anthelme, l'espèce humaine. Je pense à Chalamoff dans les récits de la Colima. Je pense surtout, et c'est de ça que je vais parler, à Primo Levi dans Si c'est un homme. Et l'éthique de l'écriture chez Primo Levi, elle est là, absolument présente, et qui est la suivante. Il ne faut pas chercher à décrire l'indescriptible. Il ne faut pas chercher à nommer l'innommable. Il suffit de le décrire tel quel, dans le tel quel, avec les mots les plus simples. Un sujet, un verbe, un complément. Les adjectifs, c'est vraiment à manier avec la plus ultime des précautions. Il n'y a rien de plus dangereux que l'adjectif terrible ou l'adjectif monstrueux dans un récit de l'innommable. Et Primo Levi, de ce point de vue, est une leçon permanente d'écriture que moi je donnais comme référence absolue du journalisme à mes élèves journalistes, en leur disant... c'est comme ça qu'il faut écrire, voyez. À aucun moment, Lévy ne part dans un discours emphatique sur la barbarie, la tyrannie, etc. Il est là dans le camp et il écrit simplement, sa note c'est « Les corbeaux devenaient plus nombreux et nous savions pourquoi ». C'est tout. Un peu plus loin, il dit « Nous nous accrochions aux heures tièdes ». Voilà. Ça ne va jamais plus loin chez Primo Lévy. Quand... leur camarade hongrois agonise à la fin du récit de Primo Levi, un de leurs camarades hongrois est en train d'agoniser, et il répète, à chaque expiration, il répète « Yavol ». Et ça devient quelque chose de d'indescriptible, parce que qu'est-ce que ça signifie que cette victime des bourreaux, qui est en train d'agoniser, et qui, dans la langue des bourreaux, répète le mot d'acceptation ? Yavol, comme une espèce de réponse au kein warum, voyez. Et c'est ça qui, pour moi, fait la force d'une éthique de l'écriture.
Bien. Écoutez, j'aimerais continuer cette conversation, mais j'ai l'impression que nous sommes limités par le temps, n'est-ce pas, Miguel?
Oui, pero tenemos aún unos minutos. Quizás para resumir un poco lo que ha comentado el profesor Caduc, ¿te parece, Brigitte?
Sí, sí. Pues un poco, primero el tema del tipo de literatura, a qué género realmente está perteneciendo, y nos está diciendo que bueno, pues es una mezcla de novela de aventura, de novela de espionaje, de ahí poner un novelón post-Dumas, yo creo que se merece algo más que esto, pero efectivamente es una mezcla de géneros. Y precisamente ahí está el encanto de este libro Mundo, ¿no? Que nos estaba esa riqueza, y además un libro muy grande, muy con muchos ¿cuántos son? 700 páginas, 700 pages. O sea, que es realmente una vida en este libro, ¿no? Entonces eso nos comenta. Y luego estuve preguntándole un poco acerca del papel del lector, que el lector puede ser un lector sin prejuicio, pues un lector como tenemos muchos en nuestra sociedad, que leen por divertirse, por entretenerse, es un libro muy entretenido. Y por otro lado, es un libro que tiene un intertexto importante, y él ha hecho una larga referencia a ese intertexto, aquí no tenemos tiempo en español de hacerlo, pero realmente muy interesante para él, que es un gran lector y el que sabe mucho de literatura, pues encontrará ahí muchas referencias literarias, no solamente francesas, sino también alemanas, también...
Inglesas
también, en fin, una gran, americanas, grandes las referencias a numerosas literaturas. Y luego hemos estado hablando también de una cuestión que a mí me preocupa mucho en la literatura, sobre todo si se toca el tema de la historia y de la historia contemporánea, es realmente esa problemática de la ética en la literatura, y en un momento en el que todo está muy cuestionado, y ahí ha dado una serie de respuestas muy matizadas que son difíciles de reproducir, Pero su punto de vista es que directamente, evidentemente, un escritor no tiene por qué intervenir directamente, pero su texto habla por él y sus personajes hablan por él. Y realmente es lo que cuenta y lo que vale en la literatura. Yo creo que es una respuesta interesante y muy importante, porque la literatura no solamente es un entretenimiento, la literatura es lo que nos permite ser libres como personas y como sociedad. Por lo tanto, es extremadamente importante.
Sí, venía a decir que no se trata de hacer un editorial, como sería en prensa, ¿no?, en journalismo, de proclamar su ideología, sino que, bueno, tampoco se puede...
Demostrar. Se trata de mostrar, enseñar a la gente a ver ciertas cosas que no quieren ver o que no saben ver.
Eso es. ¿Eh? Bien, pues yo creo que ha sido toda una experiencia interesante, como yo esperaba, por otra parte, Brigitte, viniendo de tu mano. Tengo que agradecer tu labor, Brigitte Lewin, que es profesora titular en la Facultad de Filología de la UNED, en el Departamento de Filología Francesa, que nos ha traído a este estudio, a esta universidad a distancia, la UNED, al profesor catedrático, antiguo alumno de l'École Normale Supérieure.
Que es un lugar muy prestigioso.
¿Verdad? Y él recomendaba que lo comentásemos. Bonjour, enchanté, que es autor de una novela que se llama Waltenberg, que está publicada en España por Edasa, que es Premier Roman, primera novela de Francia, 2005. La encontrarán aquí traducida por Gregorio Cantera. Yo creo que es un libro interesante que bueno, que los alumnos, estudiantes y yo creo que oyentes en general, ¿verdad?, pueden acceder a él.
Sí, y además, sobre todo, tienen la suerte de tener una traducción. Es un libro que no es fácil de leer en francés, pero tiene una excelente traducción en español. Por lo tanto, les animamos a que la lean en francés o en español.
Muy bien, yo creo que siempre terminamos haciendo esa recomendación, pero es lo mejor acudir a los libros, ¿verdad?
Exactamente, hay que acudir a los libros.
Muy bien, pues muchas gracias, bonjour.
Muchas gracias.
A ustedes. Termina ya Aula de Filología, espacio que ha estado dedicado en esta ocasión a francés, con motivo de la celebración mañana del Día de la Francofonía. En este programa hemos tenido ocasión de escuchar una conversación entre Brigitte Lewin, profesora de francés en la Facultad de Filología de la UNED, y el escritor francés de origen tunecino Eddy Kadouch, autor de una novela reciente de título Waltenberg, cuya lectura recomendamos y que está traducida al español. Gracias por la atención que nos prestan. Les recuerdo que Aula de Filología volverá a estar de nuevo en antena el próximo lunes a la hora habitual de emisión para tratar en esa ocasión de la poesía lírica latina.